En France, une personne sur quatre risque de connaître un trouble psychique au cours de sa vie. Pour en parler avec nous, Jean-Pierre Courrèges, adjoint au maire délégué à la politique de santé et d'autonomie à Dicias.
Bonjour. Oui, bonjour.
Alors, vous êtes ici sur le plateau de Radio Lingodoc pour nous parler de la 10e édition des semaines d'information sur la santé mentale. Quand on parle de santé mentale, on parle de quoi ?
Alors, on parle de plusieurs choses et qu'il ne faut pas forcément confondre. La première, on va parler, bien sûr, quand on parle de santé mentale, les gens imaginent toujours les troubles psychiatriques graves. Alors, bien sûr, ça fait partie de la santé mentale. Paranoïa, schizophrénie, etc. Bon, pour lequel, d'ailleurs, on a des traitements et pour lequel on insiste également dans la mesure où la vision de la population vis-à-vis de la santé mentale grave n'est pas forcément bonne. Il y a une certaine méfiance, on va dire, un certain recul. Et on disait, je ne sais plus qui disait, qu'une société se juge également à la manière dont elle traite justement ces personnes très fragilisées. Alors, une santé mentale et puis d'autres. Hein. Donc ça, c'est un premier volet. Mais le deuxième volet qui nous intéresse, je dirais, encore plus, même si on ne néglige absolument pas les troubles psychiatriques sévères, c'est, je dirais, les pathologies du quotidien. Pathologies du quotidien, alors ça peut être l'angoisse, ça peut être la solitude, ça peut être la dépréciation de soi-même, le syndrome dépressif également, hein, qu'on connaît. Et Dieu sait si cette période, notamment post-Covid, alors je dis post, mais c'est pas forcément post, Covid, l'introduction du Covid long, dont on va, à mon avis, parler maintenant, les actualités récentes, hein, de guerre en Ukraine, tout ceci est épouvantablement anxiogène pour les gens. Et les médias également, notamment dans les chaînes d'infos continues, on va pas dire ne favorisent pas non plus le retour à l'équilibre, parce que la vision telle qu'on l'a actuellement, hein, de mort, d'effondrement, de guerre, et telle qu'on l'a eue au niveau Covid également, sont créateurs d'anxiété. L'anxiété, c'est du stress. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'âme et le somatique, et le soma. Hein. En effet, un certain nombre d'affections sont liées directement, je dirais d'affections somatiques, sont liées directement au stress. Je prends par exemple le banal ulcère de l'estomac, c'est jamais banal d'ailleurs, mais qui est lié souvent à des phénomènes d'angoisse, de stress, hyperthyroïdie, dans les maladies thyroïdiennes, puis bien d'autres manifestations. On sait que le stress perturbe également au niveau de l'immunité. Hein. Donc si vous voulez, on ne peut pas faire une barrière entre les soins et l'attention qu'on peut prêter au niveau psychologique et les soins et l'attention qu'on peut prêter au niveau somatique. C'est lié.
Justement, ce lien, est-ce que vous pouvez nous contextualiser du coup ces semaines de la santé mentale et nous décrire les objectifs ? Parce que l'objectif, on l'a bien compris, c'est aussi de désenclaver la parole. Mais qu'est-ce qui va se passer justement du 12 au 30 mars à Narbonne ?
Alors, les journées de santé mentale sont aussi devenues les journées bien dans son corps, bien dans sa tête. Ça indique bien, si vous voulez, le concept, hein, donc, que je viens de vous décrire. Et alors, cette année, donc, nous aurons une thématique, c'est « Et si la santé mentale était une préoccupation pour tous ?» Parce qu'effectivement, c'est une préoccupation pour tout le monde. Débouche sur la libération, comme on dit, un peu de la parole, parce que beaucoup, justement, ne communiquent pas suffisamment. Et le fait de communiquer sur une problématique, bien, ça permet déjà une partie du règlement. Et donc, on a un peu axé notre communication sur ce plan-là. Alors, écoutez, on a déjà des stands d'information. C'est assez intéressant parce que, justement, les gens vont pouvoir parler, pouvoir s'exprimer. Sur le marché Saint-Jean-Saint-Pierre, le samedi 12 mars. Sur le marché Razimbault, le mardi 15 mars. Sur le marché des Barques, le jeudi 17 mars. Donc, je pense que c'est intéressant parce que quand on dit justement libérer la parole, bah oui, on peut s'exprimer, on peut avoir de bonnes adresses ou pouvoir également aller en cas de point particulier. Et puis, on aura le vendredi 18 mars des ateliers artistiques. Donc, chemin de vie, c'est place Voltaire. C'est dans la matinée de 9h30 à 12h. Le mardi 22 mars, on fait une grande flash mob sur la place de l'Hôtel de Ville, comme on le fait tous les ans, avec un rendez-vous donc à 14h. Beaucoup de participants, si vous voulez, en règle générale, c'est assez amusant et je dirais amical. Le mercredi 23 mars, cinéma le Lorax, c'est à l'annexe MJC. Donc c'est un film d'animation à partir donc de 6 ans. Le jeudi 24 mars, j'en ai porte ouverte pour diffusion sur 11 courts-métrages. C'est le GEM, le groupe d'entraide mutuelle, et la Maison des potes, hein, qui va lutter en même temps contre certaines discriminations. Ça sera au niveau du local du GEM, au Disquet de Lorraine. Le vendredi 25 mars, c'est assez intéressant parce que faut pas oublier non plus l'école. L'école qui peut être un lieu également de stress. Hein. On parle des harcèlements scolaires. Et j'ai mal à l'école, venez échanger avec un psychologue autour des troubles de la scolarité. Alors, je crois que c'est très important, angoisse, harcèlement, décrochage. Et ça sera animé par Madame Laval, qui est psychologue de la Maison des adolescents, qui connaît donc parfaitement son thème, son sujet. Et ça aura lieu à la Maison de prévention de santé, donc, qui est bien connue, au 41 boulevard Docteur Féroul. On termine le lundi 28 mars, enfin on ne termine pas, mais 28 mars, Café Philo. Michel Tozzi, qui est conférencier et philosophe, qui intervient assez régulièrement. En quoi la pathologie mentale nous dérange-t-elle? C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les maladies psychiatriques. Là aussi, c'est très intéressant. C'est à la Maison de prévention de santé de 18h à 19h. Et puis, il y a une grande journée conviviale qui est un peu le point d'orgue. Le mercredi 30 mars, c'est dans les jardins face à l'hôpital. Hein. Le jardin du plan Saint-Paul. Là, on aura des découvertes de création artistique des Sims 2022, donc sur le chemin de vie, avec des expositions, des ateliers ludiques, une flash mob. Donc, vous voyez, plein de choses conviviales qui devraient attirer quand même un public nombreux sur cette thématique.
On voit qu'il y a beaucoup d'activités artistiques et puis de désenclavement de la parole.
Oui.
J'imagine que c'est pour un axe bien précis, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a cette volonté de dédramatiser peut-être.
Alors tout à fait. Dédramatiser ne veut pas dire ne pas s'en préoccuper. Ça veut dire déjà de franchir une première étape, parce que si vous êtes en pleine crise d'angoisse, vous ne pouvez pas entendre la bonne parole, si j'ose dire. Hein. Il faut donc que vous passiez déjà ce premier barrage, que vous ayez la confiance qui vous permette la discussion sur ce plan. Vous me parlez de l'art, oui. Le dernier thème des journées SISM, les neuvièmes, c'était sur l'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, c'est-à-dire la possibilité de créer. La musicothérapie en fait partie également, mais ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, fait tout à fait partie de ce schéma thérapeutique qu'on peut proposer, si vous voulez, aux personnes, parce que il y a double impact. Le premier, c'est bien évidemment de s'occuper au niveau de l'esprit, parce que beaucoup de personnes sont clouées, en quelque sorte, je ne dirais pas au sol, mais clouées dans leur fauteuil, ne bougent plus, ne sortent plus. C'est la définition même de la dépression. Si vous faites quelque chose, vous vous occupez déjà et donc vous franchissez également une première étape. Le deuxième point, c'est lorsque vous avez fait un joli dessin, un joli tableau, de la musique, eh bien vous avez une augmentation de votre estime de soi. Et la perte de l'estime de soi est un des moteurs, malheureusement, qui conduit aussi à la dépression, au stress, etc.
On se fait tout de suite une petite pause musicale et puis on revient de suite après. Bon escuto.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
De retour sur le plateau de Radio Languedoc en compagnie de Jean-Pierre Courrèges, adjoint au maire délégué à la politique de santé et d'autonomie. Alors Jean-Pierre, justement, rentrons dans le vif du sujet de l'actualité de la santé mentale chez les Français et les Narbonnais. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Quel est le constat? Après, vous le parlez en introduction de cette vague sanitaire qui a vraiment pénalisé mentalement les Français, cette vague un peu très anxiogène. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et aussi sur le point étudiant, on va en parler.
Oui, alors, si vous voulez, la vague Covid agit malheureusement sur plusieurs points. On ne l'a pas trop mesuré au départ parce qu'on pensait en fait que ce serait beaucoup plus court. Les épidémies, je rappelle que la grippe espagnole a été moins longue que ne l'est le Covid. Hein. En 18 mois, c'était réglé. C'était la plus grande épidémie qu'on ait connu ces derniers siècles. Le Covid agit donc sur plusieurs points. Le premier, c'est le stress engendré par les risques sanitaires, le risque d'aller, ou tout au moins pour certains. Ça, je dirais que c'est plutôt pour les plus âgés, puisque les plus jeunes se sont réfugiés au départ en disant « nous, on ne sera pas malades ». Sauf qu'un certain nombre ont été malades et que ça a un peu chamboulé, malgré tout, les choses. Le deuxième point, c'est la longueur donc de durée associée à un certain nombre de restrictions, ce qu'on appelle les privations, entre guillemets, de liberté. Pas exagéré non plus, on n'était pas en prison. On a eu 2 mois très difficiles où on ne pouvait plus bouger. Et malheureusement, ça a été extrêmement difficile et extrêmement variable selon les gens. Je m'explique. Il est beaucoup plus facile, si vous voulez, d'avoir une sorte de confinement sur deux, trois, ou confinement partiel, comme ça a été ensuite, sur 6 mois. Lorsque on est dans une grande villa, qu'on peut sortir dans sa villa, qu'on a une grande maison, que quand on est justement dans un espace plus restreint avec une multifamille. Bon. Donc là, je pense que ça a joué également au niveau différence. Et il est bien noté que la population un peu précaire, si vous voulez, a été plus touchée que les autres sur ce plan-là. Après, il y a eu aussi peut-être des problèmes concernant l'emploi. Et je pense notamment aux indépendants. Ça n'a pas dû être simple, même si on a appliqué le quoi qu'il en coûte, ce qui a quand même permis de maintenir à flot un certain nombre quand même d'industries. Ça, il faut quand même le souligner. Ça a été un point important. Mais malgré tout, quand même, il y a eu des entreprises qui ont un peu flagellé. Le fait d'être en télétravail également a été un bénéfice pour certains. Alors, on a vu des gens qui partaient de Paris sur Bordeaux pour faire du télétravail, c'est très bien. Mais pour beaucoup, ça a été la rupture avec le lieu de travail. Moi, j'ai des échos proches qui ont dit « télétravail, c'est bien une fois par semaine, mais enfin, le reste, moi, j'ai besoin de voir les personnes avec qui je travaille ». Donc, tout ceci a fait que... On est arrivé à un stade, effectivement, alors selon les personnes, certaines l'ont très bien supporté, Parce que, justement, ils avaient déjà une résilience, ils étaient au courant, etc. Et puis d'autres l'ont très mal supporté. Bon, c'est... voilà, donc avec des pressions, j'écoutais justement des informations sur également des nombres importants de burn-out actuellement. On dirait que pratiquement un tiers de la population étant dans un stress, burn-out au niveau travail, une inadéquation maintenant par rapport... les gens se sentent un peu perdus. Alors que, normalement, si on n'a pas de vilain variant, on devrait lentement et sûrement, d'ici cet été, quand même souffler d'une manière à peu près stricte au niveau Covid, en sachant que, vraisemblablement, pour les populations les plus fragiles, on conseillera à la rentrée, non pas la quatrième dose, mais ce sera la dose de rappel réel, si vous voulez, pour la vaccination Covid, pour ceux qui ont été vaccinés 3 doses à partir de septembre dernier. Je rappelle simplement, si vous... D'accord, que la vaccination Covid, c'est pas que les gens ont erré, c'est que c'est une vaccination en 3 doses. Comme la vaccination du tétanos, et avec un rappel après.
Et sur le point étudiant, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Quel est le bilan à l'heure actuelle pour les étudiants? Est-ce qu'ils ont été très atteints aussi à leur tour?
Alors, oui, ils ont été très atteints, plus qu'on ne le pensait. Là encore, plusieurs points. Il y a les étudiants aidés, moralement, financièrement, etc., par leur famille ou leurs amis. D'autres qui sont un peu dans la solitude. Le deuxième point, un étudiant, un jeune, bah, ça aime bien sortir, ça aime bien boire un coup, ça aime bien aller danser. C'est bien naturel, moi le premier. Mais justement, cet confinement qui a été dur sur 2 mois, mais ça, à mon avis, ça n'a pas été le plus dur. Ce qui a été le plus dur, c'est finalement le confinement partiel qui s'est prolongé. Parce qu'on n'en sortait pas, on n'avait pas l'impression qu'on allait en sortir un jour. Et je pense que ça a été très déstabilisant pour les gens en général, et les jeunes en particulier, pour les raisons que je vous ai indiquées. Et puis, il y a le côté financier. Il ne faut pas oublier que le jeune ne roule pas sur l'or. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'aide des parents ou pas. Vous avez des boursiers ou pas. Et puis, beaucoup d'étudiants qui font des petits jobs d'été et qui n'ont plus forcément ces emplois, puisque ces emplois fermaient. Donc, il y a eu un manque à gagner également qui ne fait que prolonger leur angoisse.
On parle de santé mentale tout au long de cette interview. Quelles seraient les astuces si on se sent actuellement flanché? Quand je vous parle d'astuces, c'est peut-être les premiers gestes à adopter si on se sent un peu désemparé par le fait de sentir sa santé mentale un peu flanchée.
Je dirais la première des choses, c'est de ne pas lutter seul. On peut essayer de lutter seul, mais il faut avoir beaucoup de force humaine. Et généralement, ceux-là n'ont pas trop de problèmes. Donc c'est les plus fragilisés qui vont avoir, fragiles ou fragilisés, qui vont avoir le plus de problèmes. Donc il ne faut pas rester dans la solitude. Il faut aller vers sa famille, il faut aller vers ses amis, vers ses maîtres, quand c'est au niveau universitaire ou de l'enseignement. Beaucoup de professeurs également sont très investis auprès de leurs élèves, peuvent donner des conseils. Il y a des associations des adolescents, par exemple, d'autres associations qui peuvent aider éventuellement des malades qui ont eu en même temps des problèmes de Covid ou qui sont inquiets, peuvent aussi aller exprimer leurs craintes, et pas forcément vis-à-vis de leur maladie, mais aussi de tout ce qui entoure, parce que ça peut avoir un retentissement néfaste sur leur maladie. Donc, je pense, et puis ne pas hésiter si on se sent déprimé, avoir recours à un psychologue qui permet d'essayer de débrouiller les choses, d'expliquer, donc de désangoisser.
Psychologues qui sont, si je me permets, remboursés dès maintenant.
Tout à fait. Là, c'est assez récent et ils sont remboursés maintenant. Et je pense que ça a été une très bonne chose qu'on attendait depuis longtemps. Comme d'autres corps de santé, on aimerait bien qu'ils soient remboursés également. Et c'est nécessaire. Je pense que, si vous voulez, la crise Covid a fait prendre aussi conscience que la santé, qu'elle soit physique et mentale, était vraiment une activité régalienne de l'État.
Outre ces informations très précieuses sur la santé mentale, on peut peut-être aussi rappeler que le mois de mars, c'est Mars Bleu qui rentre en jeu. et donc le cancer colorectal.
Et oui, et tout à fait. Et là, on rejoint le soma, le somatique. Mars bleu est de longue date, hein, une période de dépistage du cancer colorectal. Alors, ce qu'il faut dire, en enfonçant les portes ouvertes, mais c'est pas forcément connu, bien connu de la population, c'est que le cancer colorectal fait partie des cancers évitables. Alors, pas évitables à 100%, mais évitables malgré tout, sur une proportion non négligeable, et Mars bleu est là pour justement y participer. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de rechercher par un test, si vous voulez, au niveau des selles, si un petit saignement. Si un saignement, ça ne veut pas dire qu'il y a cancer, mais ça veut dire qu'il faut aller un peu plus loin dans l'exploration. Un peu plus loin, c'est de prendre rendez-vous avec son médecin, avec son gastro-entérologue, et de faire ce qu'on appelle une colonoscopie. On introduit sur une courte anesthésie générale, mais pas profonde, une colonoscopie, une introduction d'un tube qui va permettre tout au long du côlon de voir s'il y a des polypes qui peuvent être tout à fait bénins et saignés. Et puis des polypes qui pourraient être malins, à ce moment-là on les enlève tout de suite, ou qui pourraient être prédégénératifs. Et à ce moment-là, là aussi, on les enlève. Donc vous voyez, un acte à la fois de diagnostic, mais aussi de prévention. Alors, plusieurs thématiques. Hein. Là, on n'a pas parlé du stress parce que, justement, tout au long des sismes, on va parler du stress. Donc, on va... Bien sûr, le stress agit aussi sur le cancer du côlon. Mais on a plusieurs possibilités d'intervention. On a 4 conférences qui se dérouleront à la Maison de Prévention de Santé, donc qui sont accessibles au site de la ville, hein, sur les dates et les thèmes. Alors, je vais parler moi-même de l'activité physique qui prévient entre 25 et 50% des cancers coliques, ce qui n'est pas négligeable. On a une thématique sur l'alimentation, parce qu'on sait ce que est bon et ce qui n'est pas bon. Hein, on sait que l'alcool, la viande, trop de viande, tout au moins, trop de viande. La charcuterie, c'est pas si bon que ça. Tandis que fruits et légumes, c'est plutôt bon. Donc, on a toute une thématique là-dessus qui va en parler. On va parler effectivement des signes diagnostiques, des traitements. Et puis, comment, ça a été un des thèmes également qui a été lancé au niveau national, comment prévenir finalement les incidents ou accidents des traitements. Alors, du cancer en général, mais du cancer colique en particulier. Ça, c'est une thématique. Donc, c'est le président de l'Aude, de la Ligue contre le cancer, avec lequel nous travaillons synergie, hein, sur Mars bleu, qui interviendra. Et puis, la dernière thématique, c'est mon ami Pierre Marciano, qui est un gastro-entérologue installé bien, bien connu, qui parlera justement de tous ces facteurs de risque et de l'importance à la fois de prendre en compte le dépistage local, qui donc permet d'enlever des polypes, et puis justement de ces facteurs de risque dont je viens de vous parler, donc qui sont quand même un point particulier. Alors je rappellerai quand même qu'on a plus de 40 000 cancers du côlon, je rappellerai quand même qu'on a pratiquement 18 000 morts en France, que c'est chez l'homme la 3e cause de mortalité, chez la femme la 2e cause de mortalité derrière le cancer du sein, et donc ça vaut vraiment la peine de se faire dépister. Quand on parle de cancer évitable, on dit que pratiquement un tiers des cancers pourraient être évités. Quand on parle du cancer colique, on pense que si on fait très bien, 90% des petits cancers pourraient être traités dès le début et guéris. J'emploie le terme « guéri ». Et c'est un peu dommage d'attendre d'être dans les 10% où les traitements, certes, vont peut-être être efficaces, mais dans lequel, malheureusement, c'est plus lourd. Les traitements risquent d'être plus importants, que ce soit au niveau chirurgical ou chimiothérapique. Et voilà, si on peut l'éviter, c'est pas plus mal.
Vous l'aurez compris, encore une fois, informez-vous, parlez-en et n'hésitez pas. Jean-Pierre Courrèges, merci beaucoup pour cet échange.
Merci à vous.
Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet lingodoc.eu. À d'ici.